Voilà un sujet qui a beaucoup fait jaser aujourd'hui. Je suis allé en jaser, Marie-France.
Oui, je t'ai entendu.
Avec Bernard Drainville. Oui. Bon, on va appeler ça les déboires de la famille de Mathieu Lacombe, qui a été obligé de se protéger, demander de l'aide dans une situation très délicate où les choses se sont accumulées. Notamment la maladie de sa femme, sa conjointe,
exactement,
sa santé.
Ouais.
Alors voilà, il a dû faire une proposition à ses créanciers.
Oui.
Et, voilà.
Et on découvre ça ce matin en ouvrant le journal. Quel étrange job de journalisme, quel discutable job. Je vais y revenir plus tard, mais d'abord, Mathieu Lacombe, une situation ordinaire que vivent beaucoup de Québécois et de Québécoises, des dettes, pas parce qu'il a joué, pas parce qu'il a des goûts de luxe, mais simplement parce que jeune famille, femme qui retourne aux études, ennui de santé, des prêts étudiants parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils ont cru au pouvoir de l'éducation, et ils ont été de bonne foi en plus. Ils ont voulu rembourser leurs créanciers, ils n'ont pas esquivé, ils ont été responsables et donc ils se retrouvent dans une situation, comme on nous l'a beaucoup expliqué aujourd'hui, se retrouvent pris beaucoup de Québécois et ce faisant, ciblant Mathieu Lacombe et sa famille, on stigmatise une part toujours plus grandissante de ceux qui traversent des difficultés financières. On en connaît tous, il y en a dans nos familles. C'est vraiment une situation qui nous touche vraiment de près. Et ce gars-là, Mathieu Lacombe, fait ce qu'il faut faire, est responsable et il croit dans sa chance. Il n'a pas de squelette dans le placard, selon lui. Il en parle à François Legault, qui est donc au courant et qui dit « OK, vas-y, tu joues carte sur table, présente-toi en politique. » Il croit dans la démocratie, il croit dans la politique. C'est un jeune qui se lance en politique. Il y a quelque chose de vraiment admirable là-dedans. Et le bon aspect de cette histoire-là, de cette histoire de candeur et de courage à la fois, c'est que, comme il est dans une situation très ordinaire, on sait qu'il sera, comme ministre, comme député, il sera sensible, il sera empathique, il sera compassionnel face à ce que vivent ses électeurs. Il a vraiment fait face avec calme aujourd'hui. On a vu son message sur Facebook. Ce gars-là vient de renverser la situation et de se faire bellement connaître. Maintenant, c'est quoi cette job de tentative de salissage de la part du Journal de Montréal? C'est vraiment étrange. J'essayais de comprendre. Est-ce que c'est une revanche personnelle? Il était chef d'antenne à TVA Gatineau, donc dans l'Empire québécois, avant de se présenter aux élections de cet automne. Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est l'impératif de rentabilité du journal qui fait qu'on fait de la saucisse journalistique pour mieux nourrir toutes les plateformes de l'Empire? Écoute, on remonte même à son enfance difficile. On nomme sa femme. C'est vraiment une drôle de job journalistique.
La marque des deux voitures.
Oui, c'est vraiment
non
trop.
Seulement ça, écoute, comme l'a souligné Pierre-Yves McSween tout à l'heure, Marie-France, excuse-moi si je t'interromps, il a dit c'est important de savoir qu'il a dû vendre sa maison puis qu'il a fait un petit gain en capital de 25 000 $.
On va vraiment loin. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle du jaunisme. Et ça écœure pas le public du journalisme. On sait que les journalistes font face à beaucoup de méfiance, voire du mépris. Ça n'aide pas dans les circonstances. Ça décourage certainement des gens qui ne sont pas de la machine politique professionnelle, qui ne sont pas du sérail politique et qui éventuellement voudraient se lancer en politique. Tu te dis, est-ce qu'on va me faire la job qu'on a faite à Mathieu Lacombe? Est-ce que tout le monde aura le courage et la candeur de faire face comme il le fait? Et au total, l'opinion publique s'est rangée aujourd'hui derrière le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et Dieu merci, ça témoigne d'un...
Il a été reconnaissant.
Oui, tout à fait.
Mais Marie-France, moi, j'ai lu ça avec le premier café à 6h30 ce matin.
Ouais.
Je vais t'avouer que d'une certaine façon, je suis pas mal d'accord avec toi, pas mal d'accord avec Pierre-Yves, ça va décourager beaucoup de gens à prendre des situations qui sont souvent humiliantes, délicates,
ouais,
mais des décisions à prendre. D'une certaine façon, moi, je trouve que l'article du Journal de Montréal fait œuvre utile de la façon suivante.
Explique-moi, oui.
Oui, je vais t'expliquer. C'est que j'utilisais l'expression volontairement, l'expression anglaise, c'est un wake-up call,
ouais,
pour tout le monde, à moins d'être riche. Marie-France, à moins d'être très riche ou encore avoir une famille très riche, énormément de gens ne sont pas à l'abri de ce genre de situation qui peut survenir à tout moment. La santé, oui. La perte d'un emploi, la
fait.
Perte de l'emploi de la conjointe ou du conjoint, mm-hmm. l'arrivée d'un nouveau-né, la décision que l'un des deux prend de quitter son emploi pour s'en occuper.
Oui.
Tu comprends?
Alors, oui, il y a tout ça. On le dit, avoir un cancer, souffrir d'une maladie, même plus tard dans la vie, quand on a des REER, quand on a une job, ça peut vous pousser, vous quitter votre job. À un moment donné, l'argent commence à manquer. Ça peut être catastrophique. Oui, ça peut être un wake-up call, comme tu dis, mais en même temps, il y avait quelque chose de vicieux là-dedans.
Tu penses?
Oui.
Derrière ça, du fait que Mathieu Sylvain Lacombe, parce que ça a l'air qu'il a eu un diminutif de son nom.
Oui.
On avait-tu besoin de savoir ça en plus?
Mais c'est ça, trop d'informations à un moment donné.
Mais tu penses que c'est pas net.
C'est pas clair. Moi, j'ai pris mon café et j'ai recraché ma gorgée.
Ah bon?
Ouais.
Mais tu penses que c'est parce qu'il était chef d'antenne à Gatineau?
Je ne sais pas. Je pose des questions. Je ne le sais pas. Je trouve ça très étrange et très... Il y a de l'acharnement journalistique.
Mais j'espère que tu n'as pas raison.
Parce que j'espère moi aussi.
Mais Marie-France n'a pas de maudit bon sens. Il prend la décision de se lancer en politique. C'est avec tout ce que ça comporte, hein, de sacrifices aussi. Là,
bien
il
ne
sera
sûr.
Pas multimillionnaire.
Ah oui. Et puis, il se lançait à l'eau. Il n'était pas sûr d'être élu non plus.
En plus, imagine-toi.
Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu venir. Là. En fait, à peu près personne l'a vu venir.
Okay.
Et il était dans une région, en plus, qui est plutôt libérale. Non, c'est vraiment... ce jeune homme-là est à suivre.
J'espère que tu n'as pas raison.
Courage. J'espère que je n'ai pas raison, mais en tout cas, ça me fatiguait.
Le crucifix.
Le crucifix de l'Assemblée nationale, celui-là précisément, celui-là qui, Paul, divise la population, la sépare, nous sépare littéralement en deux, et je tenterais même une ligne de fracture, les citoyens et les politiciens de tous les partis qui sont nés ou dont les parents sont nés au moins au milieu du 20e siècle, qui sont encore attachés à l'idée que la foi catholique est un des piliers symboliques de l'identité canadienne-française à cette époque-là. Ça a quelque chose de viscéral, quelque chose de secret, quelque chose de fondamental. C'est comme un pilier de notre identité pour beaucoup de gens et c'est certainement un sentiment qui est exacerbé par la religiosité très ostentatoire, très visible de certains immigrants. On pense à l'islam, évidemment, mais pas que, mais beaucoup. Alors, il faut, je crois, dans ce débat-là, mettre l'émotivité de côté parce que, avec la volonté de François Legault et de son gouvernement de légiférer rapidement, d'ailleurs, sur les signes religieux ostentatoires, il va falloir faire appel tous à la logique. La logique de la part du gouvernement pour vendre son projet de loi, pour l'expliquer, pour faire œuvre de pédagogie, pour l'appliquer. Or, la logique doit être appliquée à tous. C'est une condition de la légitimité de ce projet de loi-là. Et il n'est pas question, évidemment, de renier les faits, notre histoire. Les Canadiens français sont historiquement catholiques. Le crucifix de l'Assemblée nationale est historique, culturel, patrimonial. Ce crucifix-là, précisément, raconte l'union indestructible du clergé et de l'État sous Duplessis, la maîtrise de l'Église sur les familles, sur les femmes aussi. C'était une Église toute puissante. C'était celle des pensionnats indiens, c'était celle des prêtres agresseurs. C'est pas un beau morceau de l'histoire de l'Église, ni de celle de l'État d'ailleurs. Et c'est celle-là qu'on veut mettre à distance. Après ce crucifix-là, précisément, il faudra le garder, il faudra le montrer, l'exposer au musée avec des explications pour se souvenir parce que c'est un témoignage essentiel de ce qu'on a été et de ce qu'ont été à une époque maintenant révolue, les liens entre l'État et l'Église. Et quand je disais il faut être logique, c'est que l'Assemblée nationale, c'est le lieu où se joue la neutralité de l'État pour le bien commun de tous les Québécois. C'est là que par des lois, par la discussion, on fabrique de la justice, on fabrique du bien-être, on fabrique de la démocratie. Ça doit être neutre et bienveillant. Et là, je vais carrément lancer, Paul, un appel à Monsieur Legault. Monsieur Legault, en reprenant l'idée de Bouchard-Taylor, parce que vous avez déjà fait un pas de côté sur la question des signes religieux, sur les enseignants, en osant faire ce que on aurait dû faire comme société depuis 10 ans, vous aider le Québec à avancer. Alors ne vous laissez pas emberlificoter par un symbole qui fut capital, mais qui nuit désormais. Il a sa place au musée, il a sa place dans la vie privée, mais surprenez-nous, Monsieur Legault, et dites non au crucifix.
Voilà, Marie-France.
C'était ma profession de foi.
Journée importante. On verra bien la suite des choses.
Oui, on verra. Hein?
Merci, à demain.
À demain, Paul.